j'ai les forfaits de la famille capitaliste, mais heureusement bien la narchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, tout le pouvoir, il le nie. Encore quelques gros efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement problème social en suspens. Des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre au plus offrant. L'avenir à Dieu prend place et le vieux mandata, la casse.
Donc on vient d'écouter une chanson qui a été interprétée par Les Amis de ta femme, mais qui a été composée par Guy Debord, un situationniste des années 60. Puis la chanson raconte un événement qui s'est produit au 19e siècle lorsque Émile Henry, un anarchiste, a déposé une bombe devant le quartier général d'une compagnie ferroviaire qui utilisait des briseurs de grève durant une grève de ses employés. Et le concierge, pour faire l'histoire brève, le concierge, trouvant la bombe, la ramène au commissariat de la rue des Bons Enfants. Et une fois à l'intérieur, la bombe explose en portant avec elle le concierge et plusieurs agents, ce qui a frappé l'imagination et qui a également inspiré beaucoup d'autres anarchistes. Et d'ailleurs, Émile Henry récidivera par la suite, cette fois-ci dans un café. C'est une cible beaucoup moins intéressante. Et il sera jugé par la justice et condamné. Tout ça pour faire le lien avec la chronique d'aujourd'hui qui est les mouvements anarchistes et nihilistes russes et plus largement, on va dire, socialistes du 19e et 21e siècle qui utilisaient, entre autres, excusez-moi, j'ai dit 21e, mais c'est 20e siècle, qui utilisaient, entre autres, le terrorisme pour atteindre leurs objectifs. C'est ce qu'on va voir durant la chronique aussi, quels étaient ces objectifs. Et on va comprendre l'ensemble du phénomène en utilisant comme point de départ, ben, premièrement, on va utiliser Franck avec nous en studio, qui est un spécialiste de la question, mais on va aussi utiliser un magnifique livre qui a été écrit par Hans Magnus Heisensberger, qui est un Allemand, qui est aussi un militant anarchiste, qui a écrit un livre, « Les rêveurs de l'absolu », qui a été écrit dans le cadre d'un ouvrage qui s'appelle « Crime et politique », qui cherche à faire le lien entre la politique et le crime. Dans le fond, dans ce cas-ci, c'est l'attentat. Et puis, dans ce livre-là, c'est justement, on va aborder plusieurs organisations révolutionnaires du 19e et 21e siècle qui avaient des pratiques particulières. On va commencer, c'est là qu'on commence. Franck va pouvoir continuer sur la lancée.
OK, fait que c'est à partir de là que j'ai de la pression, dans le fond. Oui, donc, d'abord, Les rêveurs d'absolu, comme tu l'as dit, Guillaume, c'est deux chapitres d'un livre d'Enzensberger sur le crime et la politique. Pour résumer un peu le livre tel que présenté par les éditions Alia, dans le fond, Enzensberger va présenter qu'il y a vraiment une évolution dans la révolte des Russes à travers le 19e et le 20e siècle. Le premier champ de la révolte, dans le fond, c'est le champ de la théorie, où il va relever trois théoriciens principaux, c'est-à-dire Bakounine qui va amener vraiment l'idée de la révolte à tout prix et la révolution, aussi, d'une certaine façon, la nécessité de la violence. Ensuite, l'élève de Bakounine, d'une certaine façon, qui est Netchaïev qui va amener l'idée de la fin qui justifie les moyens. Netchaïev va dire essentiellement, dans le fond, qu'on peut mentir, on peut faire à peu près n'importe quoi pour faire avancer la cause. Il faut s'assurer que les opprimés soient plus opprimés, même pour s'assurer que la révolution puisse avoir lieu. Et le troisième théoricien le plus obscur, c'est Tkachev. Tkachev, ce qui va amener, dans le fond, à la perspective des nihilistes du 19e siècle et des anarchistes du 19e siècle, c'est l'idée que, dans le fond, c'est la mise en valeur de la jeunesse, l'extrême même mise en valeur de la jeunesse. Tkachev va essentiellement dire que la révolution ne peut pas inclure de gens qui ont plus de 25 ans. Là. Fait que, à ce niveau-là, c'est peut-être une idée qui est un peu comique. J'ai ici, je pense qu'on pourrait inclure un extrait du livre par rapport aux idées de Bakounine, justement.
Donc, c'est une citation qui vient justement du livre d'Eisensberger. De ses prémices précaires, Bakounine tira cette conclusion hardie. Rien n'est plus simple que de soulever un village quelconque. Le peuple est constamment capable et prêt à se révolter et, après la révolution, à s'organiser dans l'indépendance. Il ne lui manque pour cela que la conscience de sa force, la haine contre ses oppresseurs et la pratique de la révolte. En conséquence, les révolutionnaires n'ont pas besoin d'enseigner le peuple qui n'a rien à apprendre. Le peuple connaît ses propres souffrances et leurs origines. Les révolutionnaires n'ont qu'à attiser la haine contre les classes privilégiées, éveiller chez le peuple la conscience de sa force et exercer cette force par des tentatives de putsch.
Donc, ensuite, Enzensberger va dire qu'après le champ de bataille de la théorie, les révolutionnaires du 19e siècle en Russie vont aller plutôt vers le champ de la propagande. Alors, c'est l'époque où on va commencer à passer des tracts. Et ensuite, il y a une période aussi qui est intéressante, qui est l'idée d'aller au peuple, dans le fond, où souvent de jeunes étudiants quand même qui sont dans les universités, qui sont dans les instituts de technologie, les instituts de médecine, vont aller dans les villages, justement, à partir de cette idée-là de Bakounine, vont aller dans les villages pour essayer, justement, d'amener la révolution ou, du moins, de regarder la révolution se faire.
C'est aussi pour faire un retour aux sources, puisque ces gens-là étaient souvent issus de milieux privilégiés, puis ils souhaitaient quand même comprendre l'oppression puis l'exploitation.
Exactement. Et ensuite, quand finalement cette idée-là n'aura pas fonctionné, quand la révolution n'aura pas eu lieu, les jeunes anarchistes russes vont plutôt, et les socialistes vont plutôt se tourner vers carrément l'idée de la violence. Alors là, on va atteindre le niveau de la violence nihiliste où ces jeunes transfuges de classe, généralement, vont carrément opter pour une idée de la révolution qui est le fait de devoir faire faire table rase, dans le fond, d'être obligé de tout détruire pour repartir en neuf. Une idée qui naît vraiment du fait qu'il n'y a pas d'autre option que la violence dans une société autocratique et hautement censurée. Cette violence-là va amener à l'assassinat du tsar à l'époque et après la répression, le mouvement de violence va prendre, disons, une pause d'à peu près 15-20 ans. Le tsar est assassiné en 1881. La reprise de la violence va se faire justement en 1901 à travers le Parti socialiste révolutionnaire et en particulier son organisation de combat.
Puis s'il y a une pause aussi longue, c'est entre autres parce qu'à la suite de l'assassinat du tsar Alexandre II, il y a complètement les organisations révolutionnaires vont être décimées par la police secrète.
Tout à fait, tout à fait. Donc ensuite, quand on arrive avec les révolutionnaires du Parti socialiste révolutionnaire, eux, l'organisation de combat, dans le fond, va essentiellement avoir une forme d'indépendance assez haute dans le parti. Et puis, c'est là la période, comme Enzensberger le note, des jeunes terroristes hyper conscients. Là, c'est des gens qui sont quasi ridiculement conscientisés dans leurs actes, qui sont aussi très... c'est pour eux très important d'être conséquents, dans le fond, dans leurs gestes. Là. Enzensberger, dans le fond, va essentiellement amener trois idées qui sont importantes à travers tout ce résumé-là, parce que pour l'essentiel, le livre est quand même plutôt anecdotique. Là. Ça se lit quand même de façon assez linéaire. Un premier aspect important, c'est justement l'idée qu'il n'y a pas de solution en dehors de la violence pour les jeunes qui soient nihilistes ou les socio-révolutionnaires. C'est une société autocratique. Le tsar a un pouvoir absolu. Il y a la police politique qui est présente. Il y a une censure très forte quand même. On ne laisse pas entrer de textes qui viennent de l'extérieur même. Les gens ont besoin d'avoir un passeport, oui. Une permission pour quitter le pays. Donc, il y a vraiment là aucune solution, comme la propagande ne peut pas fonctionner dans cette société-là en tant que révolte. Un autre aspect qui est important aussi, c'est que cette violence-là va naître du fait que le pouvoir est identifié à un seul individu. Mm. Dans ce cas-là, le tsar. On peut faire le lien aussi plus tard avec avec Lénine et avec surtout Staline, dans le fond, qui va s'identifier en tant que tel comme étant lui-même l'État. Fait que c'est un peu de là que vient cette idée de la violence-là, puis, du terrorisme individuel.
Puis aussi, pour nous aider à comprendre la définition même qu'on peut donner au terrorisme, peut nous aider quand on parle d'une action qui est nécessairement violente, mais qui perd ses résultats et va dépasser largement le cercle des victimes, puis dans le fond, le cercle immédiat pour atteindre une dimension énorme. Puis là, on parle d'un attentat sur une seule personne, soit le tsar, qui va ébranler toute la Russie au grand complet. Donc, de ce point de vue-là, ces gens-là en sont venus à se convaincre de l'utilité du terrorisme.
Exactement. Et puis, de tout ça va venir un aspect qui est probablement l'aspect le plus important, je crois, du livre d'Enzensberger, et sur lequel on va revenir à travers notre exposé, qui est justement l'installation d'une logique de violence. Ça s'installe réellement une logique, un cycle de la violence, un cycle d'action-réaction, de coups, de répression, d'actes terroristes entre les terroristes et d'abord la troisième section, qui est la police secrète russe, et ensuite ce qui va naître de la troisième section, dans le fond, qui est l'Okhrana, qui va être ensuite la police secrète russe jusqu'à, en fait, la révolution de 1917. Là. Mm. Donc, je crois qu'on peut aller pour un extrait.
Oui, bien, un extrait qui est intéressant, c'est la suite d'un attentat qui visait le tsar Alexandre III, bien, en fait, le tsar Alexandre II, puis qui a réussi. Donc, Alexandre II meurt, qui est sous la bombe, d'ailleurs, de... Comment il s'appelait déjà?
Celui qui a tué Alexandre II.
Laissez-moi me rappeler. Bref.
C'est pas Soloviev. Non, l'attentat de Soloviev rate, si je me rappelle bien.
Bref, le comité exécutif de l'organisation va envoyer un tract, ben en fait, va diffuser un tract à la largeur de la Russie. Puis, le tract s'adresse au tsar Alexandre III, qui est le fils du tsar qui vient de se faire assassiner. Donc, tout en comprenant parfaitement l'état d'esprit actuel de votre majesté, le comité exécutif ne se croit pas autorisé à céder à des sentiments de délicatesse naturelle qui eussent sans doute exigé une remise de la déclaration qui va suivre. La tragédie sanglante qui s'est déroulée au canal de Catherine n'a pas plus été un coup du sort qu'elle n'a surpris quiconque. Après les événements des années écoulées, elles apparaissent plutôt comme une nécessité inévitable de celui du destin. Pardonnez-moi. Comme une nécessité inévitable et celui que le destin a placé à la tête de l'État doit prendre conscience de sa signification profonde. Seul quelqu'un d'absolument incapable d'analyser la vie des peuples présentera ce genre d'événement comme le crime de personnalités isolées, voire même d'une bande. Certes, le gouvernement peut, à sa convenance, continuer à emprisonner et à pendre, comme il peut aussi anéantir quelques-unes des organisations révolutionnaires. Nous admettons même qu'il détruira les plus importantes d'entre elles. Mais l'idée de la révolution ne cessera de s'étendre. Une terrible éruption, une lutte sanglante, un ébranlement révolutionnaire désespéré de toute la Russie accomplira la destruction de l'ordre ancien. Où trouverons-nous l'explication de l'affreuse perspective qui s'offre ainsi à nous? Oui, sire, c'est une affreuse et navrante perspective. N'allez pas croire que tout ceci n'est qu'une phrase. Nous ressentons plus fort que ce qui compte la désolante perte de tant de talent et de tant d'énergie. Mais pourquoi cette nécessité d'une lutte sanglante? Du fait que chez nous, sire, un véritable gouvernement au sens réel du mot n'existe pas actuellement. Un gouvernement qui doit, selon le principe de sa nature, l'expression de ce que désire le peuple. Chez nous, toutefois, excusez l'expression, le gouvernement a dégénéré en une complète camarilla et mérite bien plus que nous d'être qualifiés de bande d'usurpateurs. Pour sortir d'une telle situation, il n'y a que deux issues, soit une révolution ou encore un appel volontaire de la plus haute autorité au peuple. Dans l'intérêt de la patrie, le comité exécutif s'adresse à vous, Majesté, pour lui conseiller de prendre la seconde voie. Soyez assurés qu'aussitôt que le pouvoir aura cessé d'être arbitraire, sitôt qu'il aura montré la ferme volonté de prêter l'oreille aux exigences de la conscience populaire et de sa conscience morale, et que vous aurez en conséquence donné congé aux espions qui compromettent le gouvernement, envoyez le convoi dans les casernes, vous pourrez alors brûler les gibets qui démoralisent le peuple. Dans ce cas, le comité exécutif cessera lui-même son activité. Je m'arrête ici parce que ça continue encore, mais ça donne l'idée de la lettre.
Oui, ça donne quand même une bonne idée de la lettre. Donc, je pense que des aspects sur lesquels on voulait revenir justement à travers la discussion d'aujourd'hui, un, c'était le choix des terroristes d'aller vers la violence politique, dans le fond, justement d'aller vers le terrorisme. D'abord, ce qui est important de noter, c'est que pour, selon eux, ils ont absolument épuisé toutes les alternatives. Là, c'est quand même intéressant de voir qu'ils sont passés d'abord par un champ de bataille qui est la théorie pour ensuite aller vers la pratique. La pratique commençait d'abord par la propagande, donc avec les tracts, avec l'idée d'aller vers le peuple, de discuter avec le peuple, de voir qu'est-ce qui était possible de faire, d'essayer vraiment de provoquer un soulèvement. Quand ils ont réalisé que ça n'allait pas nécessairement fonctionner, essentiellement, parce que, bon, il y a des questions, entre autres, tout simplement l'oppression, le peuple qui était peut-être pas prêt à se soulever. C'était difficile aussi quand même, là, faut remarquer, de distribuer des tracts à des gens qui savent essentiellement pas lire et puis qui, pour être capables de lire les tracts, vont aller voir les personnes qui savent lire, qui dans ce cas-là sont l'autorité. Il y avait un réel danger de répression, là, en plus d'une censure très forte qui était exercée.
Ce qui rendait la publication de tracts extrêmement difficile.
Oui, ça rendait la publication de tracts difficile et ça rendait aussi quand même le travail peut-être un peu inefficace à un certain degré quand même. Mm-hmm. En plus de la censure, en plus de la répression carrément, des arrestations, du démantèlement des imprimeries. Donc, il y avait vraiment l'idée que il n'y avait pas d'autre option pour être capable de mettre fin au tsarisme, de mettre fin à l'oppression absolutiste des tsars, que d'aller vers la violence. Il y a aussi quand même une question qui est intéressante quand ils vont faire le choix du terrorisme comme tactique. Puis là, c'est vraiment important de mentionner ça. Là. Dans ce cas-ci, on entend terrorisme en tant que tactique de la révolution. On n'impose pas de jugement moral. Là. En tant que tel, il n'y a pas de différence dans un geste entre, que ce soit les attentats présentement du Hamas et les gestes qui ont été posés par la résistance française contre les nazis. Comme il n'y a pas non plus de différence entre ça et l'assassinat de Heydrich, un haut placé de la Gestapo en Slovaquie pendant la Deuxième Guerre mondiale par des Juifs. Il n'y a pas de différence tactique réelle entre ces actions-là. Là. Donc ici, on entend vraiment le mot terrorisme en tant que tactique, pas en tant que, dans le fond, l'espèce de...
L'idée qu'on s'en fait depuis les événements du 11 septembre.
Exactement. Là. Et puis, il y a quand même une différence qui existe entre le terrorisme depuis le 11 septembre et ces actes-là. Là.
Je pense que la différence, c'est que depuis, on peut plus facilement, décrédibiliser un mouvement ou une personne en le traitant de terroriste dans les médias, surtout quand c'est l'autorité qui le fait.
Oui, exactement. Et c'est quand même un débat qui est intéressant sur lequel, si on a du temps, il faudrait y revenir. Donc, c'est ça. Il y a quand même un choix aussi des cibles qui se fait là, à travers cette logique du terrorisme-là. D'abord, les jeunes nihilistes vont s'attaquer aux mouchards. Ensuite, ils vont augmenter. Ils vont aller vers carrément les officiers de l'Okhrana. Ils vont aller attaquer ensuite les ministres, les gouverneurs pour tranquillement aller viser carrément leur cible réelle, qui est le tsar. Comme ils vont mentionner eux-mêmes, il n'y a pas d'idée logique à, dans le fond, attaquer tous les responsables, tous les fonctionnaires qui, dans le fond, font juste exécuter ce que le régime du tsar veut. L'idée, c'est que si on veut mettre fin au régime du tsar, qui est en tant que tel le pouvoir voulu par Dieu, il faut carrément s'attaquer au tsar. Il s'établit donc une espèce de logique de la bombe, si on veut. Ou au moins, on peut se questionner s'il s'établit une logique de la bombe, qui est l'idée que si on fait une action et que cette action-là une partie de la logique de la bombe, c'est l'idée que chaque action amène une réaction. Ce qu'on désire, dans le fond, c'est avoir une réaction qui paraît disproportionnée par rapport à l'action qu'on a prise. Objectivement, donc, l'idée, c'est l'assassinat d'une personne. Ce qu'on cherche, c'est que la répression paraisse tellement forte que la population n'a pas le choix de se rendre compte qu'il y a de l'oppression. Ensuite, on va contre-attaquer avec une deuxième action qui va peut-être être plus forte, dans le fond, qui va avoir plus d'impact, qui va amener une répression encore plus grande. C'est un peu l'idée là, de la logique de la bombe. Un aspect qui est important de la logique de la bombe, justement, c'est l'idée qu'on a besoin d'une certaine façon de la participation des médias. Là. Il faut que cet attentat-là soit publicisé. Oui, et de la police. Donc, la police joue un rôle en tant qu'acteur là-dedans. La médiatisation, la diffusion de l'acte est importante aussi. Puis là, on peut quand même se poser une question par rapport à peut-être l'efficacité réelle du choix de cette tactique-là dans une société où il y avait de la censure. Et là, quand même, on s'entend sur une censure sévère, là. Pas la version de la censure que la société postmoderne va essayer de nous présenter, qui est plus essentiellement comme une vague forme d'autocensure, aussi basée sur plutôt le
bon goût.
Le bon goût et quand même le trop-plein d'informations et d'informations souvent non confirmées, d'informations aussi où il n'y a pas de réelle analyse, dans le fond. Là, on a vraiment une censure réelle où on n'a pas le droit de rien dire, de rien faire. Il ne faut pas oublier que dans le fond, le tsar allait peut-être pas nécessairement publiciser les attentats. Là. Fait que, est-ce que le retentissement des attentats avait plus comme un retentissement local? Là? C'est ça qu'il faut se poser comme question.
Puis chez les attentats qui ont été commis par les organisations du 19e, il y avait beaucoup de gens qui sont faits qui sont morts de ces attentats-là. D'un certain côté, il y avait une efficacité, puisque les cibles tombaient comme des mouches dans une certaine mesure. Puis ça, c'est certain que c'était au prix coûtant des militants qui se faisaient emprisonner ou tout simplement ceux qui mouraient durant les attentats. Mais reste à savoir si chez le peuple, il y avait une réceptivité de ces attentats-là ou si elle l'ignorait tout simplement parce que les médias se rendaient pas ou parce que il la voyait venir comme de groupes isolés, comme l'étaient les groupes révolutionnaires.
Exactement. Puis, justement, comme on va avoir tendance, la critique historienne par rapport aux nihilistes et aussi par rapport aux jeunes de l'organisation de combat du Parti socialiste révolutionnaire après 1901, dans le fond, la critique va essentiellement dire que la seule chose que le terrorisme individuel va avoir réussi, c'est d'avoir amené plus de répression, dans le fond. Selon les historiens, souvent, les gestes qui ont été portés par les nihilistes et par l'organisation de combat, ça va avoir été essentiellement d'avoir juste réussi à faire démanteler leur mouvement et puis d'avoir ralenti peut-être le processus
révolutionnaire.
Progrès, ouais. Oui, le processus révolutionnaire et le processus, dans le fond, de la fin de l'absolutisme en Russie. Là.
Je pense que pour l'anecdote, Netchaïev en est toute une. Surtout la technique qu'il utilisait pour radicaliser ses camarades militants, je pense que...
Netchaïev est définitivement un exemple là-dessus. Là. Netchaïev va utiliser le fait de... À un certain instant, il va faire signer une pétition qu'on doit aller porter devant le tsar. Et puis, tout simplement, ce que Netchaïev va faire, c'est aller porter la pétition à la police au lieu. Donc, immédiatement après, toutes les personnes qui étaient présentes à l'Assemblée, une assemblée secrète quand même, mais où on avait réussi à réunir des fois quand même au-dessus d'une centaine de personnes. On parle parfois de 300 personnes qui étaient réunies dans un ou deux petits appartements. Il n'y avait pas moyen de s'asseoir, ils devaient rester debout. Il y avait de la misère à s'entendre parfois. Ce que Netchaïev va faire essentiellement, c'est qu'il va s'arranger pour que toutes les personnes qui avaient signé la pétition ou qui étaient prêtes à participer en tant qu'imprimeur à une action, Netchaïev va faire en sorte que toutes ces personnes-là soient arrêtées, donc en quelque part. Et le but, c'était, dans le fond, de pousser ces gens-là à la radicalisation. Une fois qu'ils avaient été arrêtés, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller vers la radicalisation parce que sinon... ils ne pouvaient pas rester de simples citoyens. Ils avaient déjà été marqués au fer rouge par la police. Là.
Puis aussi, de fréquenter, comment dire, la police dans ses, avec son visage le plus sombre, ça ne pousse pas à des idées de bonheur et de fraternité.
Définitivement. Et un autre coup de Netchaïev... dans vraiment comme les tactiques netchaïeviennes par excellence, ça va avoir été de feindre sa propre arrestation dans le seul et unique but de mousser sa propre popularité, sa propre réputation au sein du mouvement révolutionnaire. Netchaïev va passer un billet clandestinement disant qu'il avait été arrêté. Puis c'est vraiment comme il l'a donné à une personne en passant dans un fiacre en mouvement, dans le fond. Et cette personne-là devait aller remettre le billet à d'autres membres du mouvement militant. Netchaïev, en réalité, était tout simplement parti s'exiler en France pour rejoindre Bakounine.
Qui va lui-même lui signer une lettre de recommandation au mouvement révolutionnaire.
Exactement.
Russe.
Exactement. Donc, c'est un peu... quand on voit le choix de... Les choix qui sont faits, dans le fond, le choix du terrorisme et le choix de la violence qui est fait, on peut vraiment s'entendre sur le fait qu'on s'amène vers une logique de la violence, là, une logique de la violence qui va parfois ignorer d'autres pans du mouvement. Là.
Puis qui va même prendre son... dans le fond, la bombe pour la bombe, c'est l'attentat pour l'attentat. Puis ça va se refléter aussi dans l'état d'esprit des participants des mouvements révolutionnaires qui vont se subordonner à la cause carrément.
Oui, tout à fait.
On va aller faire une pause musicale et ainsi que la pause publicitaire. Et on va aller en chanson écouter une autre chanson du patrimoine révolutionnaire. Et celle-ci, c'est La Dynamite. Donc, vous allez comprendre, si vous écoutez les paroles, le sens de la chanson.
Tu connais ça, Craspec? C'est un vieux truc de Johnny.
Seriez-vous fatigué du froid hivernal? Eh bien, n'ayez crainte, car le croque-notcho reste au rendez-vous pour une hausse de chaleur. Sous les rythmes de la musique d'ici ou d'ailleurs, au cœur de l'actualité, ne manquez pas le croque-notcho tous les mardis soirs de 6 à 7 avec votre animateur Guillaume Genet sur les ondes de CFNX 95,5.
Félix présente en projection l'album « Tu m'intimides » de Mara Tremblay. Avec ce quatrième album, Mara explore un territoire complètement nouveau que l'on peut qualifier d'aérien, étonnant et surtout sans concession. On écoute un extrait. Même si l'interprète signe la plupart des textes, elle a pu compter sur la collaboration d'Olivier Langevin au niveau des textes et des arrangements, et sur Antoine Graton pour les arrangements de cordes. Tu m'intimides de Mara Tremblay. Un disque beau comme un vol plané.
C'est à Félix, 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
On est de retour à l'émission La Rage du Peuple. Je suis avec Franck qui nous parle en fait depuis déjà une demi-heure sur le mouvement révolutionnaire russe, les tactiques qui ont été adoptées, puis dans le fond, comment le mouvement s'est organisé, puis quelles en ont été les conclusions. On en était peut-être à différencier deux concepts, soit dans le fond, la propagande par le fait, qui est une tactique de propagande développée par les anarchistes au 19e siècle, et l'action révolutionnaire qui était menée par les nihilistes. Les deux sont très, très proches. Néanmoins, il subsiste peut-être une différence. La propagande par le fait, c'est une stratégie d'action politique qui a été développée, comme je disais, par les anarchistes, dans le fond, qui associe la propagande qui est écrite et verbale à celle qui est le fait insurrectionnel. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de montrer aux masses, aux ouvriers, ouvrières, que la révolution s'en vient, voire qu'elle commence aujourd'hui même avec un acte de terrorisme. Souvent, c'était soit en assassinant un président. Je sais qu'il y a deux présidents américains qui ont été assassinés par des anarchistes. Un président français, un président, pas un président allemand, mais bref, il y en a eu beaucoup. Puis, c'est une action qui vise à sortir du terrain légal pour, dans le fond, affirmer un mouvement qui est purement révolutionnaire et inciter les autres ouvriers, ouvrières à l'action, puis à la révolte permanente. Cette stratégie-là a depuis été revue par les anarchistes qui, finalement, dans le fond, en conclusion, c'était peut-être pas aussi efficace qu'on le pensait parce que le soulèvement n'a jamais eu lieu. Donc, c'était souvent des actions qui sont restées marginales et dénoncées même parfois par le mouvement ouvrier. Donc, souvent, c'était produit dans un milieu de dans un contexte de crise, mais ça n'a jamais amené au fameux grand soir, si on veut, au soulèvement populaire. Par contre, en Russie, cette propagande-là, c'était pas nécessairement la même tactique qui était visée. On souhaitait pas nécessairement soulever, en fait, rendu à ce niveau-là, on souhaitait pas nécessairement soulever le peuple. On savait qu'elle allait le faire, peu importe ce qui se passait, un jour ou l'autre. Ce qu'on souhaitait faire, c'est peut-être engager sa responsabilité individuelle sur les actes qu'on allait commettre envers une personne qui elle-même était engagée sur sa responsabilité du fait de son poste, que ça soit le tsar, le ministre de l'Intérieur, de la police, le gouverneur de Moscou, etc. Donc, c'était vraiment un acte d'individu à individu et qui était un acte révolutionnaire en soi, mais pas nécessairement inscrit dans une insurrection populaire.
Exactement. Puis quand même, je pense qu'il est intéressant de noter dans cette nuance qui existe entre la propagande par le fait et tout simplement la tactique terroriste qui a été employée par les révolutionnaires russes des années 1860 à 1907. Ce qui est intéressant de noter, justement, c'est que les révolutionnaires russes de 1880 vont accuser carrément, vont envoyer une lettre aux gens qui ont tué le président McKinley.
Non, c'est Garfield.
Non, oui, c'est Garfield, c'est vrai. McKinley, c'est plus tard. Et ils vont leur dire, dans le fond, que leur geste n'avait aucune raison, puisque aux États-Unis, il y a la démocratie. Dans le fond, ils ont la liberté de presse, ils ont la liberté d'association, ce que eux, en Russie, il y avait ni un ni l'autre. Là.
Donc, ils dénonçaient un attentat qui visait le président des États-Unis en disant qu'il était non légitime, puisque eux pouvaient choisir qui les dirigeait. Mais bon, bref.
Exactement. Fait que ça nous montre un peu aussi comment, en quelque part, ils étaient les terroristes russes étaient conséquents quand même dans leurs actions et ils étaient conscients. Aussi, ils ont vraiment quand même essayé d'épuiser les options là, avant d'arriver à la violence. Juste avant la pause, on était rendu vraiment à l'idée où ce que de ce choix de la violence-là dans une société autocratique était né un enfermement dans une logique de violence là, où tout simplement on avait atteint le stade où, dans le fond, il y avait la violence et il n'y avait plus d'autre choix et où, les acteurs dans ce, dans ce choix-là était vraiment pris dans un engrenage. Là. D'un côté, donc, on a les terroristes pour qui la terreur devient inévitable face à l'autocratie. Les militants vont vraiment se renfermer aussi. Là. C'est quand même quelque chose qu'on observe généralement dans les mouvements terroristes. Là. De un, ils ont pas le choix. Tant qu'ils sont en liberté, ils sont dans la clandestinité ou l'exil. Donc, ils sont à part du débat.
Ils sont constamment, comment je pourrais dire, un autre personnage, ils se cachent. Ils vivent avec d'autres révolutionnaires, puis ils préparent la prochaine action. Puis juste pour montrer un peu l'ampleur aussi des attentats, je crois qu'au 19e, la plupart des attentats étaient réalisés via des tunnels qui étaient creusés soit sous des chemins de fer ou soit sous des rues. Et on attendait la venue du tsar pour faire sauter le tout. Donc c'était carrément... On prépare le tunnel pour telle journée et à telle heure, le tsar va passer, on le fait éclater, c'est vraiment...
Oui, oui, c'est quand même un geste qui était planifié depuis des mois. Là. Donc,
très bien planifié.
Les militants se retrouvaient enfermés soit dans la clandestinité, soit dans l'exil, sinon ils étaient en prison. Donc, ils sont vraiment pris dans une logique où ils n'ont plus vraiment d'accès à la société, où ils sont carrément mis à part de la société. Si on pousse plus loin, à partir de 1901, l'organisation de combat du Parti social révolutionnaire, elle se retrouve, dans le fond, qui sont les terroristes, là, vraiment des terroristes hyper conscients là, et hyper conséquents dans leur geste. Eux vont faire, ils sont membres du parti, mais en même temps, l'organisation de combat est complètement indépendante du parti. Là. Ils ont un très, très haut degré d'autonomie. Donc, ils ont un très haut degré d'autonomie qui fait que le parti, dans le fond, a comme essentiellement aucun mot à dire sur les choix d'action et les tactiques prises par l'organisation de combat. On atteint un stade où ça devient pratiquement la terreur pour la terreur et où les terroristes même vont aller chercher quand même. Il ne faut pas oublier que la société russe est une société qui est très religieuse. Donc, sans être vraiment religieux orthodoxe, ils vont aller chercher une forme de salut dans la bombe. Là. Ce salut-là, dans le fond, qui est l'idée qui est nécessaire de mourir dans un acte, que ce soit à cause de la pendaison qui suit l'acte ou carrément de se faire sauter soi-même avec la bombe. Et en même temps, ce salut-là vient du fait qu'on libère la société. On se libère soit en tant qu'individu d'une société autocratique, mais en même temps, on libère la société dans leur tête. C'est peut-être le temps, justement, d'aller à un nouvel extrait. Là.
Oui, l'extrait, dans le fond. Pour les terroristes de 1905, l'assaut contre les puissants de ce monde n'était pas seulement un moyen tactique d'imposer tel ou tel programme. Ils le considéraient uniquement et d'une manière absolue comme un acte de libération. Ils ne nient pas leur culpabilité, mais cette culpabilité est aussitôt expiée. Le meurtre est en même temps un suicide. Tout conspirateur s'attend à sa propre mort. « Donnez-moi une bombe, » disait Dora Briand, « il faut que je meure. » Et Kaliaev, pendant une délibération, proposait à Sève, qui établissait le plan de l'attentat, « Il existe une méthode pour ne pas frapper à côté. » Sève le regarda attentivement. « Comment imaginez-vous cela? » « La voiture arrive, je me jette avec la bombe entre les pieds des chevaux, ou bien la bombe éclate et la voiture ne peut pas continuer, ou elle n'éclate pas, mais les chevaux se cabrent. Dans tous les cas, il y aura un arrêt. C'est l'instant pour le deuxième lanceur de bombe d'entrer en action. Mais dans ce cas, vous êtes sûr de sauter vous-même, naturellement. » Donc, c'était vraiment... ils voyaient l'attentat, ils engageaient leur propre responsabilité, comme je disais, juste la vie inclue dans l'attentat. Pour atteindre la libération suprême de leur personne, mais également, ben, tu sais, en tant que nihiliste, ils voyaient la destruction totale pour peut-être vivre quelque chose de mieux.
Oui. Ce qui est intéressant en plus dans cet extrait-là, on vient d'avoir la mise en scène de deux personnages historiques qui sont super intéressants, sur lesquels on va être obligé de revenir parce qu'ils sont un peu l'aboutissement là, de cette logique de violence-là. D'une part, Kaliaev et de l'autre part, Sève, qui est dans le fond le planificateur des actions par l'organisation de combat. Donc, d'un côté, on disait, on a les terroristes dans la logique de la violence. De l'autre côté, ce qu'on a, c'est la troisième section de la chancellerie, qui est la police secrète, qui deviendra ensuite l'Okhrana. L'Okhrana, dans le fond, sa tâche essentiellement, ben, en réalité, tout simplement, c'est... L'Okhrana est voué à la protection du tsar et du régime tsariste. On peut vraiment se poser la question, une organisation, une police dont la tâche est de protéger un régime, est-ce qu'elle a besoin nécessairement de l'existence des complots pour justifier sa propre existence. Là, beaucoup de gens vont dire que oui, qu'essentiellement, le travail de l'Okhrana était passé à justifier sa propre existence, donc à fomenter des complots là où il n'y en avait pas. Par contre, ce qu'on peut peut-être amener comme nuance, c'est que l'Okhrana n'a jamais été une organisation, et c'est la même chose pour la troisième section, là, qui avait tellement de membres. Là, on parle peut-être de quelques centaines de membres choisis parmi probablement...
Les fonctionnaires.
Oui, choisis parmi les fonctionnaires. C'est plus une organisation qui était vraiment fondée sur l'infiltration et puis sur les indicateurs. Là, on peut définitivement faire un lien juste par la façon de fonctionner, juste par la structure organisationnelle avec les renseignements juifs du Mossad. Là. Ce qui est quand même drôle en même temps, si on le prend avec une certaine ironie, puisque l'Okhrana est responsable d'avoir créé les protocoles des sages de Sion, qui est un des textes les plus fondamentaux de l'antisémitisme. Là.
Puis un autre truc assez étrange, c'est que l'Okhrana a servi de modèle pour la plupart des agents de renseignement modernes, que ce soit la CIA ou encore le KGB sous l'URSS. Donc, c'est chez le gouvernement le plus anti-autoritaire qu'on a trouvé le modèle pour la police des gouvernements démocratiques.
Oui, oui, c'est ça. C'est quand même vraiment intéressant parce qu'on peut faire là, une filiation directe dans les méthodes et dans le fonctionnement entre l'Okhrana et ensuite la Tcheka sous Lénine et la GPU, la NKVD et le KGB. Là, c'est pratiquement immanquable comme lien. L'Okhrana bénéficie, elle aussi, d'une forme d'indépendance face au régime. On parle vraiment d'un État dans l'État, un peu comme justement l'organisation de combat était un parti dans le parti. Là. Donc, on commence déjà à avoir des liens. L'Okhrana fonctionne aussi beaucoup sur le double jeu, sur le mensonge, sur l'espionnage, sur l'infiltration, sur la provocation. Et faut quand même noter qu'il y a un danger là, à utiliser la provocation comme tactique. On va prendre l'exemple, admettons, de Zoubatov pour sortir juste un petit peu de notre sujet. Zoubatov était un haut fonctionnaire, justement, c'était un colonel dans l'Okhrana. Et il va avoir émis l'idée, parce que dans le fond, il n'y avait pas de liberté d'association en Russie. Lui, il va carrément créer des syndicats, dont c'est des syndicats très jaunes d'ailleurs, dont secrètement, ces syndicats-là sont dirigés par l'Okhrana. Et le rôle de ces syndicats-là va être de s'attaquer aux capitalistes pour montrer, dans le fond, comment le tsar peut être capable de défendre les ouvriers et les paysans contre le système capitaliste. Fait que là, ce qu'on est capable de voir, dans le fond, c'est là qu'est vraiment établie la logique de la violence, c'est qu'on a deux organisations, deux groupes qui se reflètent, là, sont carrément le miroir l'une de l'autre. Ils adoptent les mêmes tactiques, ils ont essentiellement le même fonctionnement. On est vraiment dans un cercle vicieux action-réaction.
Surtout que l'organisation de combat s'est créée en s'inspirant directement des pratiques de l'Okhrana au sud du démantèlement de la première organisation en 1980 ou 70.
Oui, tout à fait. Et puis là, c'est vraiment intéressant ce qu'on va avoir parce que, dans le fond, quand on s'installe dans cet engrenage-là, où là, d'un côté, les terroristes sont plus conscients de qu'est-ce qui se passe autour d'eux, là, sont juste conscients du combat. L'Okhrana, elle, est occupée, dans le fond, à protéger le tsar.
À créer des complots.
Et à créer des complots, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ils font juste se surveiller entre eux autres. Il y a énormément de transfuges. C'est difficile quand même d'établir là, dans l'histoire de la lutte entre l'Okhrana et les nihilistes et ensuite entre l'Okhrana et l'organisation de combat. Qui est qui? Là, qui est un agent double? Est-ce qu'il y a des agents triples? Quand même, c'est assez parlant de dire que l'organisation de combat du Parti socialiste révolutionnaire avait ses propres responsables, ses propres spécialistes du contre-espionnage pour savoir comme qui étaient des mouchards, qui les infiltrait. Là. Donc, on est vraiment dans une espèce de logique, un jeu paranoïaque d'action et de contraction qui nous amène à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté, pour les terroristes, un abandon des idéaux à défendre et de l'autre, pour l'Okhrana, l'abandon des responsabilités qui est tout simplement remplacé par le combat comme leitmotiv.
La provocation aussi.
Oui, oui, c'est ça. Il y a vraiment comme le jeu de la provocation et tout ça.
Ils cherchent à susciter les révolutionnaires pour par la suite mieux les réprimer puis obtenir des emplois de la part du tsar.
Tout à fait. Et d'une certaine façon, ben, y a Hannah Arendt qui va faire un commentaire par rapport à ce jeu-là, qui est de dire que essentiellement la révolution russe de 1917 découle du travail de l'Okhrana. Dans le fond, l'Okhrana a créé des syndicats ou donc a créé une place pour...
La révolte.
C'est ça, a créé un organe de socialisation, une chance pour les ouvriers justement de se rencontrer, de discuter entre eux, là où il n'y en avait pas. Là.
C'est ça l'exemple aussi que tu donnais du syndicat qui avait été créé par la police. Finalement, les travailleurs se sont regroupés entre eux, puis ont décidé quand même de se révolter contre le tsar.
Exactement.
Ça a échappé à leur contrôle.
Exactement. D'un autre point de vue, dans le fond, Savinkov, qui a été lui aussi un membre particulièrement influent dans l'organisation de combat et qui va devenir ensuite, je pense entre 1904 et 1907, là, ma mémoire m'a fait défaut, va être chef lui aussi, va s'occuper du planning des attentats dans l'organisation de combat. Savinkov, qui a été un militant aguerri et dévoué justement de l'organisation de combat et de la logique terroriste, après un attentat, va commencer à revoir ses positions et après la révolution manquée de 1905, va commencer à revoir ses positions et à se demander est-ce que à s'être enfermé dans la violence comme on l'a fait, on n'a pas un peu manqué le bateau là? Il y avait réellement un soulèvement auquel on était à peine conscient tellement on était pris dans cette logique-là.
À Saint-Pétersbourg.
C'est ça. Donc, ça nous amène à voir comme qu'il y a une relation très symbiotique là, entre les organisations de la police secrète et les organisations révolutionnaires armées dans cette logique de terrorisme-là. Et cette relation symbiotique-là doit être incarnée par un personnage qu'on a mentionné plus tôt, qui est Yevno Assev. Yevno Assev a été pendant longtemps le chef de l'organisation de combat. C'est lui qui planifiait les attentats pour l'organisation de combat du Parti socialiste révolutionnaire. Assev, on pourrait le décrire comme une espèce de post-Netchaïev. On a parlé de Netchaïev tantôt, qui vraiment avait la logique du « la fin justifie les moyens », où on peut faire n'importe quoi pour aider les gens, dans le fond, pour s'assurer que les gens sont le plus opprimés possible pour les radicaliser. Et dans les organisations révolutionnaires ou même libérales, tout simplement, là, essayer de s'arranger pour faire arrêter les modérés afin de les radicaliser. Là. Donc, Assev va pousser la logique de Netchaïev à, vraiment à l'extrême. Au point où ça fait peur, là, honnêtement. On a lu tous les deux le livre. Et Assev, c'est vraiment un personnage qui fout la trouille. Là. Si on regarde un peu sa carrière, il a été chef de l'organisation de combat. En même temps, on apprend plus tard qu'il faisait partie de l'Okhrana aussi. Là, et il va, quand même, c'est vraiment... Il va s'assurer que... C'est que plusieurs membres de l'Okhrana et plusieurs... il va s'assurer que des chefs de police, des gouverneurs, il va planifier des attentats contre ces gens-là, certains qui sont vraiment, là, admettons...
Ses propres supérieurs hiérarchiques.
Oui, c'est ça, ses propres supérieurs hiérarchiques immédiats jusqu'à le plus haut placé de ses supérieurs, dans le fond, qui, en dessous du tsar, était le ministre de l'Intérieur Pleve, dans le fond, parce que l'Okhrana relevait directement du ministère de l'Intérieur. En même temps, il va planifier ces attentats-là. Ensuite, il va s'assurer aussi que...
Certains militants se fassent arrêter.
Oui, oui. Il va complètement s'assurer du démantèlement, dans le fond, de l'organisation de combat après certains de ces attentats-là. Si on prend la perspective de Hans Magnus Enzensberger, qui est, dans le fond, l'auteur du livre qui nous a amenés à faire cette chronique-là, Assev est un peu le grand marionnettiste, si on veut, là. Lui qui tire toutes les ficelles, qui contrôle absolument les mouvements de tous. Et c'est intéressant parce que, comme Enzensberger va l'amener, d'un côté comme de l'autre, ses tâches en tant que policier de la police secrète et en tant qu'organisateur, planificateur des attentats terroristes, lui demandait les mêmes talents et lui demandait essentiellement les mêmes responsabilités. Là. Il fallait que ça joue de la même façon sur, dans un terrain. Là. On a une citation justement par rapport à Assev.
En janvier 1909, le tribunal d'honneur du parti acquitta Bourtsev. Bourtsev, c'est l'indicateur, dans le fond, la personne
le responsable
qui
du contre-espionnage de l'organisation de combat et du Parti socialiste révolutionnaire. Là.
Qui, depuis plusieurs années, cherchait à dénoncer Assev, puisqu'il savait qu'il travaillait pour la police. Bref, c'était la condamnation d'Assev. Il s'enfuit en Russie. La police du tsar ne l'a pas arrêté, mais au contraire, protégé. En février 1909, Il y eut à la Douma une interpellation au sujet de l'affaire Assev. Le ministre-président Stolypine répondit aux questions de la fraction social-démocrate et libérale par ses paroles. Assev fut engagé comme collaborateur de la police en 1892. Il a d'abord été agent de liaison du ministère de la police avec des cercles clandestins, puis il fut détaché à la direction du département de l'Okhrana de Moscou. Il nous a également rendu de grands services à l'étranger. Jusqu'en 1905, il a travaillé pour le directeur du département de la police secrète de Saint-Pétersbourg. Naturellement, Assev n'était pas constamment à notre service. Chaque fois que l'on commençait à le soupçonner, chaque fois que l'on se préparait à de nombreuses arrestations, on le mettait en vacances pour plusieurs mois. Donc, c'est la preuve. En fait, c'est incroyable qu'une personne qui soit responsable d'une organisation terroriste révolutionnaire, soit en même temps travaille pour la police et de chaque côté donne de ses militants comme empâture à la police et d'un autre côté prépare des attentats qui réussiront contre ses supérieurs hiérarchiques. On se demande qu'est-ce qui le motivait.
Oui, puis c'est ça, certains, par exemple, un historien du mouvement, dans le fond, du Parti social révolutionnaire, va présenter Assev comme étant un simple carriériste, essentiellement, qui s'est arrangé pour faire tuer ses supérieurs pour monter dans la hiérarchie. Je suis vraiment pas certain de cette théorie-là. Je pense que c'est un peu simplifier le personnage d'Assev que d'essayer de faire quelqu'un qui a juste une logique aussi passement terre-à-terre, carriériste que ça.
Surtout puis, que dans son domaine, c'est difficile de vivre vieux. Là. Quand on travaille et pour la police et pour une organisation révolutionnaire, il y a un moment où ce qu'on est dénoncé puis on subit les foudres.
Oui, c'est ça. Il aurait quand même été tellement facile pour lui de se faire prendre d'un côté comme de l'autre. En même temps, il ne pouvait pas juste faire tuer ses supérieurs dans une logique d'avancement de carrière. Ça aurait été trop facile de le repérer. Bourtiev l'avait quand même repéré là, chez les socialistes révolutionnaires. Depuis, je pense, 3 ans environ, là, quand on va finir par faire un procès. Et le procès ne sera pas fait contre Bourtiev. Il va être fait contre... il ne sera pas fait contre Assev, il va être fait contre Bourtiev.
Oui, on accusait la personne qui le dénonçait d'atteindre à sa réputation. J'ai une autre citation intéressante. Les plus petits gestes d'Assev est d'une ambiguïté vertigineuse. Non seulement il a trahi les révolutionnaires au profit du gouvernement, mais il trahissait en même temps le gouvernement en faveur des révolutionnaires. Il n'a pas seulement été membre du Parti révolutionnaire social, il a été sans doute l'un des terroristes les plus doués, les plus radicaux de son temps. Il a préparé et organisé une série interminable d'attentats. Les actes de terroristes auxquels il a participé étaient dirigés contre les personnages suivants. Le gouverneur Kharkov, le prince Obolensky, le gouverneur d'Oufa, le ministre de l'Intérieur Plev, dont l'un des plus hauts placés de ses supérieurs, le grand-duc Serge Alexandrovitch, le général Trepov, gouverneur général de Saint-Pétersbourg, Kleygels, gouverneur général de Kiev, le gouverneur de Nijni Novgorod, l'ambassadeur Dubasov. Bref, il y a vraiment la liste continue vraiment, là, puis il y a plusieurs directeurs de l'Ukraine qui sont dans la liste. Donc, il y a vraiment décimé et ses troupes de l'organisation révolutionnaire, mais il y a aussi carrément détruit la moitié du gouvernement de la Russie. Là.
Exactement. Là, on peut se demander, à la limite, sans vouloir frôler le conspirationnisme, mais là, je pense que dans ce cas-là, on est presque en droit de se poser la question à quel point Assev, lui seul, d'une certaine façon, là, en tant qu'organisateur, est responsable des troubles en Russie là, autour de 1905, et d'une certaine façon que ça va découler de lui jusqu'en 1917. Ce qui est intéressant, je pense, c'est la perspective amenée par les éditions Alia, dans le fond, dans leur catalogue, et de présenter... ils ont choisi ce livre-là pour un espèce de rejet de la société, dans le fond, présenté par les nihilistes et par les membres de l'organisation de combat. Dans le fond, le personnage d'Assev prend vraiment là, prend vraiment comme un caractère luciférien, là, où c'est l'extrême de sa révolte se montre dans le mépris à la fois de soi, mais des autres, qui est vraiment l'aboutissement de toute cette logique de violence-là, là, de si on commence à rentrer dans le choix du terrorisme en tant que tactique. Par contre, ce qui est intéressant aussi, il y a un autre militant, il y a un autre révolutionnaire de l'organisation de combat, lui qui est un peu, dans le fond, la preuve qu'on peut sortir de ça aussi, c'est Kaliaev, qu'on va présenter comme étant l'anti-Assev. Alors là, Kaliaev, c'est un terroriste de l'organisation de combat. C'est celui qui va être chargé d'assassiner le grand-duc Serge Alexandrovitch, justement, qui était quand même un homme très conservateur, qui était un homme très brutal aussi. Si je me rappelle bien, c'est l'oncle chéri du tsar. Kaliaev va avoir la tâche donc d'éliminer cet homme-là. Ce qui est pourquoi on retient le geste de Kaliaev, c'est que sur le moment où Kaliaev devait commettre son attentat, il avait la bombe en main, il s'est lancé devant le fiacre du grand-duc, et quand il a réalisé que la femme et le fils de Kaliaev étaient dans la voiture...
Mais en fait, la femme et le fils de Kaliaev, mais...
Oui, pas de Kaliaev, désolé, mais de Serge Alexandrovitch. Kaliaev va cacher sa bombe et aller voir l'organisation de combat pour leur demander qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Dans le fond, si vous voulez tout simplement... Si vous me dites que j'aurais dû lancer ma bombe, ça ne me dérange pas, je vais tout simplement aller lancer la bombe maintenant pendant que le grand-duc...
est à la messe.
Est à la messe, puis je vais tuer 3000 personnes, là. Kaliaev avait vraiment suivait cette logique-là où il fallait absolument tuer personne d'autre que la cible. Et puis, il va quand même avoir là, l'idée de la nécessité de mourir dans son acte. Là. Comme on l'a vu plus tôt, tu avais fait une citation du livre où Kaliaev cherchait carrément à mourir à travers son geste. Je ne sais pas si on a le temps de finir par une dernière citation.
Oui, c'est la conclusion du livre. Les communistes n'ont jamais compris ce qui animait cette inoubliable phalange de justiciers meurtriers. Pour Vera Sassoulitch ou Igor Sassonov, il ne s'agit pas d'une ligne, d'une recette politique ou d'une doctrine sociale. Il s'agissait de leur salut et de celui des autres, un salut qui était de ce monde et qu'ils ne pouvaient atteindre qu'au prix de leur propre vie. Durant la seconde de vérité où ils lançaient la bombe, ils réalisaient leur salut et anticipaient celui des autres. Et ce salut correspond à la damnation. Kaliaev d'un côté, Assef de l'autre, ils incarnent les deux possibilités terminales, les desseins extrêmes de l'existence de leur moment historique. On comprend que leurs exemples soient insupportables au communisme, car ils évoquent une grandeur inconnue qui se soustrait à tout calcul dans les malédictions dont Lénine et ses disciples accablent les meurtriers des tsars, se mêlent aux arguments rationnels, une institution de limite et de leur puissance. Un mouvement de peur, une nuance d'inquiétude secrète. L'exemple de Kaliaev menacera toujours une souveraineté reposant sur la misère des opprimés. 50 ans avant que Kaliaev ne montât sur l'échafaud, Marx, qui voyait plus loin que ses successeurs, avait forgé un mot qui rend justice à Kaliaev et à tous ceux qui lui ressemblent. Il appelait tous les conspirateurs de cette espèce les rêveurs de l'absolu. Un rêveur de cette trempe, un inconnu au milieu de la foule, suffit pour plonger toutes les puissants de ce monde dans la terreur.
Donc, voilà qui conclut bien, je crois, notre discussion d'aujourd'hui.
Oui, donc c'est ce qui conclut la chronique sur les mouvements révolutionnaires russes. C'est vraiment un livre incroyable que je suggère à tout le monde. C'est aux éditions Alia de Hans Magnus Eisensberger, « Les rêveurs de l'absolu ». Donc, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui de La Rage du Peuple. Vous êtes tout de suite qui suit, c'est l'émission Le Crotte-Notte Show. Salut!
Ne vous laissez pas intimider par les musiques expérimentales. Délirantes, dérangeantes, elles savent aussi divertir, questionner et stimuler. Chaque semaine, François Couture vous propose nouveautés, portraits et thématiques couvrant tout le vaste spectre des musiques d'avant-garde. Ne manquez pas Délire actuel, le mardi à 20h.
Voici la météo sur l'Environnement Canada en ce mardi 3 février. Pour ce soir et cette nuit, ce sera des passages nuageux. Un minimum est prévu à moins 17 degrés. Et pour demain mercredi, ce sera nuageux avec un maximum prévu à moins 13 degrés. La météo à CFLX vous est présentée à toutes les heures. CFLX 95,5. La radio communautaire de l'Estrie.
Bonsoir et bienvenue à toute nouvelle émission du Crack Not Show avec votre animateur Guillaume Genet et sa co-animatrice.
Oui, mais maintenant tu m'appelles co-animatrice.